Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et merci. Merci aux soignants, aux infirmières, médecins, paramédicaux qui accompagnent et prennent soin en cette période de crise sanitaire sans précédent. Merci au personnel des commerces, des services de nettoyage ou des transports, à celles et ceux qui travaillent pour la communauté dans ce contexte inédit qui bouleverse et parfois brutalise les corps et les esprits et vient encore fragiliser les plus vulnérables. Une crise sanitaire qui épuise les systèmes de santé les plus performants que l'on avait coutume de présenter comme particulièrement avancés et bien dotés en moyens, en soignants, en technologie. Et pourtant, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, eux aussi, face à ce nouveau virus, sont confrontés parfois à la pénurie, sont obligés à se réorganiser dans l'urgence. Alors qu'en est-il pour des systèmes de santé fragilisés, défaillants ou sous-dotés? Comment faire face à une pandémie dans des pays où l'on compte seulement un médecin pour 10 000 personnes, alors qu'en Europe, dans cette Europe aujourd'hui meurtrie, on en dénombre 30 à 40 fois plus? Comment tenir lorsque, face à cette maladie qui cause de graves atteintes aux poumons, le nombre de respirateurs est extrêmement limité et surtout lorsque la mesure phare pour limiter la contagion repose sur le confinement, rester chez soi alors que les populations travaillent au jour le jour pour se nourrir? Défis planétaires, défis nationaux. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans trois pays du continent, Gabon, Rwanda, Sénégal, pour comprendre comment cela se passe avec des médecins impliqués dans cette riposte. Nouvelle émission de Priorité Santé consacrée au coronavirus en Afrique avec une équipe qui travaille différemment, hein, vous le savez, de chez elle pour l'essentiel. Studio à la maison, studio dans les locaux de RFI avec Steven Hesley et Didier Cherouz que l'on salue de la main à travers un écran. Et nous allons aujourd'hui encore parler sensibilisation, prévention, prise en charge des cas suspects ou avérés de Covid-19. Et nous sommes en ligne de Libreville où l'on vous retrouve. Docteur Wenceslas Yaba, bonjour.
Bonjour.
Épidémiologiste clinicien et coordonnateur général du SAMU social gabonais. Pays confiné depuis le 21 mars, le Rwanda, interdiction des déplacements prolongés d'ailleurs jusqu'au 19 avril sur place. On retrouvera tout à l'heure en ligne le docteur Sabin Nzanzimana, directeur général du Rwanda Biomedical Center de Kigali. Et puis on retrouvera en ligne de Dakar le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale au Sénégal. Le Sénégal où l'état d'urgence a été prolongé hier pour une durée de 30 jours par le président sur l'ensemble du territoire. Et puis désormais, comme chaque lundi, on retrouvera notre séance d'activité physique pour rester en forme, anti-sédentarité. Tout à l'heure, le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Notre troisième séance de gym à la maison en temps réel, ce sera retrouvé en fin d'émission.
Priorité santé sur RFI.
Bien sûr, une approche globale au niveau du continent de l'Afrique et puis une situation pays par pays. On commence par le vôtre, le Gabon, docteur Wenceslas Yaba. Où en est justement le Gabon aujourd'hui en termes de cas positifs et de décès?
Écoutez, nous avons enregistré jusqu'à ce jour un décès pour 24 cas positifs qui sont très bien pris en charge par un système organisé et qui s'est mis en place très tôt. Les autorités, les plus hautes autorités gabonaises avaient compris l'importance d'organiser, de structurer les choses très, très tôt à travers un comité de pilotage interministériel. Et je puis dire que nous sommes vraiment à l'affût du moindre cas avec des prélèvements qui sont suivis de manière rigoureuse dans notre laboratoire P3, que vous connaissez tous d'ailleurs, au CIRF, au Centre international de recherche médicale de Franceville.
Alors justement, ces tests, ils ont été pratiqués comment? Sur la base de quels symptômes? Et bien sûr, sans en rien aller contre le secret médical, qui étaient ces premiers cas? Quel profil avait-il?
Écoutez, c'était ce que nous pratiquons d'ailleurs dans le monde occidental, la médecine des voyages. C'était des voyageurs qui venaient par vol en provenance essentiellement de la France et des pays ensuite Ensuite, et des pays, je ne stigmatise pas, hein, et ensuite, et des pays où l'épidémie était déjà en mode franchement épidémique, mmh. et donc ces personnes ont été contrôlées dans les aéroports pour la plupart, et puis les autres ont présenté des symptômes. Mais vous vous rendez compte, nous avions installé au Gabon très tôt un numéro vert, tout de suite, le 14-10, et les Gabonais ont été rapidement instruits par les médias, par la communication gouvernementale, pour appeler ce numéro vert, où il y a un centre d'appel qui a été mis avec une rapidité, une dextérité exceptionnelle. Et donc, les Gabonais appellent quand ils ont des symptômes. Et vous savez bien que nous sommes en zone tropicale, avec des maladies infectieuses tropicales récurrentes. Nous avons voulu faire du tout venant. Il n'y a pas de dissociation entre les symptômes liés aux grippes saisonnières classiques et ceux liés au Covid, parce que nous voulons voir tout le monde. Et c'est ce que nous faisons. Nous nous évertuons à faire cela. 24/24, et c'est en cela d'ailleurs qu'on arrive à circonscrire un peu l'épidémie ici, mais avec la rigueur des mesures gouvernementales qui doivent être scrupuleusement suivies.
Alors il y a plusieurs méthodes, on va dire, de prise en charge. Dans certains pays, on en parlait la semaine dernière avec le professeur Mouyembe, par exemple en République démocratique du Congo, quand il n'y a pas d'atteinte sévère, eh bien, les personnes sont mises, on va dire, en quarantaine chez elles. Dans d'autres pays, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, au Sénégal, c'est l'hospitalisation systématique. Quel choix a fait le Gabon ?
Le Gabon a fait un choix épidémiologique extraordinairement... ça fera date. Nous avons réquisitionné un hôtel. Dans cet hôtel, nous mettons et les cas, entre guillemets, positifs, les cas contacts, et même la troisième, et même la troisième colonne, pour vous dire les cas contacts des contacts. Pour
éviter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a combien de personnes qui sont regroupées dans cet établissement ?
Autour de 200.
Autour de 200 personnes. Ça veut dire que toutes les personnes sont isolées de la communauté.
Ah oui, oui. Dès qu'elles sont dépistées, ou dès qu'il y a des collusions avec quelqu'un qui a été dépisté positif, tout de suite on vous sort du fonctionnement normal et classique d'une vie régalienne, et on vous met ou dans cet hôtel ou dans les hôpitaux qui ont été réquisitionnés. Et là, il y a des salles d'hospitalisation avec des réanimateurs, des infectiologues et des épidémiologistes qui suivent la question. Et c'est comme ça que nous faisons les choses au Gabon.
Alors, voilà pour la prise en charge. Maintenant, bien sûr, pour les mesures prises par les autorités, mesures matérielles, physiques, des réglementations temporaires qui ont été mises en place pour freiner la contamination. Vendredi, la présidence a fait savoir que Libreville sera en quarantaine dans les prochains jours. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire simplement que Libreville est une ville qui est composée de trois communes. Hein, nous avons le Libreville Intramuros, la commune d'Akanda et la commune d'Ovindo. Il est normal, vous savez, la situation démographique du Gabon est particulière. Nous avons une capitale qui a 56% de la population gabonaise globale, qui vit, comme je dis souvent, sur 12% du territoire seulement, puisque 48% est recouverte par la forêt. Donc ce qui fait qu'il suffit qu'on fasse un confinement du Grand Libreville, ce que, effectivement, les autorités ont décidé, pour porter un coup important à la propagation de l'épidémie. Parce que
ça veut dire qu'on ne sort pas de la ville, mais ça ne veut pas dire forcément que les personnes ne sortent pas de chez elles, docteur Yaba.
Non, il faut que les choses soient très claires. Il faut d'abord qu'on respecte ce confinement. Il faut que moi, je dise aux populations de mon pays qu'il faut respecter les mesures gouvernementales, d'une part. Mais de l'autre, il faut dire que, pour l'instant, nous vivons un confinement partiel qui est respecté, de 19h à 6h du matin. Mm-hmm. Et en journée, il y a eu une réduction déjà, par exemple, des agents publics, des employés dans les sociétés, ce qui fait qu'on ne peut pas interdire scrupuleusement aux gens de sortir de la maison, puisqu'il y a des métiers pour lesquels on est bien obligé d'être dehors pour le fonctionnement normal du pays. Mais nous tenons à dire, vous savez, nous sommes une république démographique, on ne peut pas se permettre le luxe de se taper une épidémie au sens propre comme au sens figuré. Une épidémie aussi dangereuse que le Covid. Donc vous comprendrez un peu les mesures qui sont extrêmement à respecter dans le contexte mondial actuel. Oui, les gens pourront sortir sous conditions. Les conditions ont été clairement édictées. C'est-à-dire que si vous avez un métier qui le permet, par exemple au SAMU, les SAMU, les hôpitaux, les pompiers, ceux qui ramassent les poubelles, oui, vous pouvez travailler et bien évidemment protéger les autres et vous protéger vous-même pour éviter la circulation du virus.
Et les autres invités à rester chez eux. Justement, je vais vous faire écouter la voix d'un auditeur de RFI, Dr Wenceslas Yaba. Il s'appelle Soumaïla. Il a enregistré ce message de Bamako au Mali. Et je pense que beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent en ce moment vont se reconnaître dans ce qu'il dit. On écoute tout de suite ce message de Soumaïla.
Bonjour Caroline et bonjour à tous les auditeurs de l'émission Priorité Santé. J'aimerais témoigner de la situation sanitaire de notre pays, le Mali. J'aimerais juste dire que le confinement au Mali est une chose qui est totalement impossible vu la situation économique et sociale de notre pays. On est dans un pays où les réalités socio-économiques sont très difficiles. 90% de la population vit du jour au jour et les gens se débrouillent pour s'en sortir. Même les premières mesures qui ont été prises, les répercussions ont été déjà ressenties puisque la fermeture des écoles et les lieux de désir ont contraint à plusieurs milliers de personnes à se retrouver dans un chômage technique, y compris moi-même qui vous témoigne actuellement. Je suis au chômage technique parce que j'évolue dans le domaine de l'éducation. Donc, nous souhaitons que nos autorités fassent tout pour éviter un confinement, mais on voit que toutes les mesures qui sont en cours d'être envisagées nous conduisent vers un confinement. Donc, ma question est de savoir s'il n'y a pas d'autres mesures qui sont plus simples que le confinement.
Docteur Wenceslas Yaba, ce confinement difficile à tenir, d'ailleurs, y compris l'OMS souligne que de nombreuses personnes dans la région doivent gagner de l'argent quotidiennement pour survivre, des déplacements limités, mais on va dire simplement il faut continuer de se nourrir, il faut continuer de faire les courses et de faire à manger pour la famille.
Écoutez, vous avez raison, mais je souhaiterais quand même répondre à cet auditeur, à Soumaïla, que je salue au passage. Il faut savoir qu'il y a un principe de santé publique d'une part et de l'autre côté un problème de subsistance des populations. Mmh. Au Gabon, je parlerai du Gabon et de l'Afrique de manière générale, d'abord, on n'a pas le monopole de la souffrance. C'est-à-dire que on confine bien les gens dans le monde entier. Ce n'est pas parce qu'on va confiner des Gabonais ou des Africains momentanément pour juguler une épidémie qu'on va stigmatiser les Africains en disant ils souffrent plus que les autres. En France aussi, je connais très 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 bien, et la précarité existe et je crois qu'on a confiné tout le monde.
Oui, mais les autorités nationales et ont même des difficultés à le faire, distribuent de la nourriture, par exemple, aux sans-abri ou les mettent à l'abri. On voit bien que là, avec toute l'économie informelle dans de nombreux États africains, c'est quand même quelque chose de très, très difficile à tenir.
Je suis réaliste. Je comprends très bien cette question. Mais en l'état actuel, du début de l'épidémie réellement en Afrique, il serait judicieux d'abord de dire aux Africains et aux Gabonais en particulier, puisque je réagis en qualité de Gabonais, de dire qu'il faut respecter les mesures des gouvernements. Maintenant, en ce qui concerne le gouvernement gabonais, nous avons pris des mesures exceptionnelles, extraordinaires. Il y aura des banques alimentaires au Gabon qui vont commencer dans quelques jours, on va dire au courant de la semaine, pour donner à manger aux plus démunis. On va faciliter beaucoup de choses en termes d'entreprise, puisque vous savez très bien que les entreprises sont sans arrêt, donc je réponds à Soumaïla, on va donner des subventions aux guichets, à certaines sociétés pour continuer à vivre, pour ne pas fermer, pour ne pas que l'économie soit décadente. Mmh. Il faut que nous soyons réalistes, Madame Paré. On ne peut pas dire qu'il y a une épidémie qui tue. On ne peut pas dire que l'Afrique aurait des problèmes pour prendre en charge cette pandémie qui est mondiale et de l'autre côté ne pas prendre des mesures pour ne pas qu'elle puisse s'étendre. Même si on a des facteurs écologiques favorables, on doit rester alerte. En outre,
il faut rester mobilisé sur ces deux sujets. Restez avec nous si vous le voulez bien, docteur Wenceslas Yaba. On va vous redonner la parole, mais tout de suite, on part pour Kigali.
Priorité santé sur RFI.
Alors, on le disait tout à l'heure, on vient de l'entendre avec le docteur Yaba, pas de confinement total pour le Gabon jusqu'à présent, mais un pays n'a pas tardé, lui, de son côté, à prendre très tôt cette mesure très stricte. Ce pays, c'est le vôtre, docteur Sabin Nzanzimana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du Rwanda Biomedical Center. Alors, cette mesure nationale de confinement, elle est appliquée depuis le 21 mars. Elle a été prolongée jusqu'au 19 avril. Où en est aujourd'hui l'épidémie dans votre pays, le Rwanda, docteur Nzanzimana?
Merci beaucoup. Comme tous les pays, presque du monde entier, nous faisons face à une pandémie de coronavirus. C'est vrai qu'au Rwanda, on a pris des mesures plus tôt, même avant les décisions du confinement. Il y avait aussi d'autres mesures d'hygiène et qui ont été appliquées presque sur l'étendue du territoire pour s'assurer que les gens se préparent même avant que on détecte les premiers cas du virus au Rwanda. Et les trois semaines écoulées déjà avec les gens qui restent à domicile et avec les équipes médicales, l'équipe d'épidémiologistes au travail pour essayer de stopper la progression du virus. Jusque-là, nous avons enregistré 100 cas confirmés de coronavirus. Mm-hmm. Hier, il y a 4 cas qui sont guéris, qui sont rentrés à la maison. Mm. Et il nous reste donc 100 personnes infectées par le coronavirus qui sont dans deux centres de traitement au Rwanda. Ils ont eu pas mal de contacts, à peu près 1900 contacts que nous avons essayé de rejoindre, de tester avec l'objectif de reconnaître ce qui peut être, qui peut avoir le virus déjà. Et comme ça, on peut les isoler et les traiter, tout en stoppant la progression et aussi en informant le public.
Alors, ce qui est important de demander, c'est ces cas positifs, ils sont systématiquement hospitalisés, quel que soit le degré de sévérité de l'atteinte ?
Exactement, exactement. D'accord. Et c'est ce qu'on a fait depuis le premier jour. Le premier cas a été détecté le 14 mars. Ici à Kigali, depuis ce jour-là, le système de tester et puis d'isoler, de hospitaliser tous les cas positifs identifiés s'applique jusqu'à ce jour. Et le premier objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de contamination, il n'y a pas d'infection qui circule, que les gens sont en train d'être suivis. Tous les cas qu'on a eu jusque-là sont dans un état stable, même s'ils sont, entre guillemets, en hôpital, ils ne sont pas vraiment malades. Il n'y a pas de cas graves.
Ils développent, parce que c'est vraiment important de le dire, des formes, ce qu'on appelle bénignes de la maladie, comme une grosse grippe, mais eux n'ont pas d'atteinte pulmonaire grave qui nécessite d'être mis en service de soins intensifs. Vous avez un petit peu de recul, hein, puisque vous avez pris des mesures très tôt, docteur Nzanzimana. En termes d'évolution, est-ce que vous voyez si vous arrivez à freiner ou à l'inverse, s'il y a de plus en plus de cas ?
Bon, il est très tôt de répondre à cette question en disant que nous avons stoppé la progression du virus. Parce qu'à chaque jour, il y a de nouveaux cas qu'on détecte, mais c'est surtout des contacts des cas déjà confirmés. Et tout le monde se prépare à ce qui peut arriver s'il y a un foyer d'infection qui n'est pas encore maîtrisé. Jusque-là, on dirait que la plupart des cas qui sont identifiés, les 100 cas que nous avons dans nos centres de traitement, sont la plupart des cas importés. Et quelques contacts qu'ils ont eus sont maintenant notre priorité. Mais jusque-là, tout le monde, que ce soit au niveau de notre pays, au niveau du monde entier, on se prépare à ce que l'épidémie peut évoluer. Il faut mettre en place toutes les mesures pour non seulement détecter, tester, isoler, mais aussi préparer nos centres de traitement et nos hôpitaux.
Justement, vous avez réorganisé des choses. On sait que le système de santé rwandais repose sur de très nombreux niveaux. Il est très structuré. Vous avez aussi, ce qui est rare sur le continent, un système de sécurité sociale, hein, la couverture santé universelle. Comment ça se passe ? Il y a deux questions au niveau de la réorganisation des structures de soins et aussi, c'est très important, de la protection des soignants.
Justement, au niveau des structures de santé, notre priorité pour le moment, c'est de ne pas surcharger les systèmes de santé existants. C'est pourquoi même les deux centres de traitement spécifiques pour le coronavirus n'ont pas été mis dans les hôpitaux existants pour ne pas non seulement créer des contaminations au niveau de l'hôpital pour les patients qui sont déjà soignés dedans, mais aussi pour que les hôpitaux se préparent pour des cas vraiment compliqués avec des complications pulmonaires, des cas sévères qui nécessitent des soins intensifs.
Et pour ces soins intensifs, excusez-moi docteur, est-ce que vous avez les services de réanimation adaptés justement pour faire face à ces complications ?
En général, nos systèmes de santé se développent chaque jour. Mmh. Et, il y avait des structures déjà existantes, surtout au niveau des hôpitaux universitaires. Mmh. Et le système, comme il est construit, ça commence au niveau communautaire, au niveau des centres de santé, des hôpitaux des districts et au niveau des hôpitaux de province. Et à partir de ce niveau des provinces jusqu'au niveau des hôpitaux universitaires, c'est là où on trouve beaucoup plus de capacités de réanimation, d'intubation, de soins intensifs. Et ce que nous faisons pour le moment, c'est d'équiper ces centres, ces hôpitaux, de plus de capacités et d'équipements, mais aussi le personnel qui est capable de gérer des cas compliqués, des cas qui ont qu'on voit pour le moment que le virus est en train de causer des complications pulmonaires. Et ce n'est pas n'importe qui peut gérer ça. On voit ça au niveau de trois côtés, au niveau personnel, au niveau équipement, mais aussi au niveau de nos structures de santé déjà existantes.
Ce qui nécessite une vraie coordination, une vraie réorganisation. J'aimerais qu'on aborde un dernier point, Dr Saban Zanzimana, très important, pour justement revenir aux mesures prises par le gouvernement. Le confinement, les Rwandais sont en train de le vivre, il y a des contrôles des forces de sécurité dans le pays. Et en termes de soutien aux populations, on imagine que c'est compliqué pour continuer à manger quand on va travailler tous les jours sur le marché. Justement, l'OMS a recommandé au gouvernement d'employer des mesures de manière réfléchie pour que les populations puissent continuer à accéder aux nécessités de base. Est-ce qu'aujourd'hui, cet accès est possible au Rwanda? Comment est-ce que vous vous êtes organisé sur ce plan-là, sur celui de la vie quotidienne, de la continuité de la vie?
Si, les services essentiels de la population, que ce soit les banques, que ce soit le marché, les services de santé, continuent comme avant pour que la population puisse accéder. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a une grande partie des populations qui ne peut pas nécessairement rester à se nourrir ou à trouver de l'essentiel s'il n'y a pas du travail en général. Et c'est ça que le gouvernement a mis en place juste au début de la période de confinement pour venir en aide à ces populations.
Avec un système de distribution?
De distribution qui est organisé à partir du village jusqu'au niveau des districts et des provinces. Et il y a déjà une liste des gens qui sont connus, qui ont besoin de cette aide essentielle et qui sont aidés par des structures déjà existantes, organisationnelles au niveau de ces structures communautaires. Et c'est ce qui se fait pour le moment. Et jusque là, d'autres populations qui peuvent accéder, avoir de l'argent et aller au marché, faire des courses pour des services essentiels, continuent. Et ceux qui sont en besoin essentiel sont aidés par le gouvernement et c'est la structure qui marche jusque là. Et pour nous, les services de santé et l'équipe qui lutte contre le coronavirus, ça nous donne une fenêtre importante d'opération pour stopper la progression du virus le plus tôt possible pour que ces services essentiels puissent continuer à un certain moment.
Et de continuer à faire passer les messages de prévention. Hein. Justement, si vous avez un dernier mot à dire aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, Dr Saban Zanzimana, ce serait quoi ce message pour vous essentiel à faire passer?
Le message essentiel, c'est que ce virus, pour certaines populations, c'est quelque chose qui n'a pas été vécu avant. Et nous apprenons tous, que ce soit les spécialistes de santé, les chercheurs, ce que nous apprenons à chaque jour nous aide à adapter nos actions et nos réactions. Donc, c'est important que ce dialogue international continue. Mais aussi, c'est important que nos populations comprennent l'importance des services de confinement parce que s'il y a des mouvements, le virus ne circule pas, c'est les gens qui circulent. Donc, il peut y avoir des cas incontrôlables s'il y a cette ouverture. Donc, il faut respecter ces recommandations de rester à la maison, au moment où on stoppe ce virus.
On suit bien les consignes, on a bien compris. Merci beaucoup, docteur Sabin Nzanzimana, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général du Rwanda Biomedical Center, prévention essentielle. Hein. Et pour la faire passer, eh bien, les clubs RFI se mobilisent sur le continent, comme d'ailleurs à Bukavu, hein, pas très loin du Rwanda, ce message qui passe en swahili.
Coronavirus ni ugonjwa ya hatari, tena inaua. Inaambukia haraka, lakini tunaweza iepuka kwa kuheshimu mashauri ifuatayo. Nawa mikono wakati wowote ukitumia sabuni au disinfectant. Usizogelee mtu anayeonyesha alama za ugonjwa huo kwa kukohoa au kuchafia. Epuka kugusa mara na mara macho, pua na kinywa. Unapokohoa ama kuchafia, funika kinywa na pua ukitumikisha kitambaa au papier mouchoir na kuitupa baadaye. Ukipata homa, kikohozi au matatizo ya kupumua, enda haraka kwenye kituo cha afya cha karibu. Kusalimiana bila kupeana mkono. Ni ujumbe wa Gorilla FM.
Geste barrière en swahili avec les clubs RFI. Prévention, hein, ça passe par des messages par la radio. On continue. Priorité santé, on parle de la riposte face au coronavirus en Afrique. Et on vous retrouve en ligne de Libreville, docteur Wenceslas Yaba. Tout à l'heure, je disais en vous présentant, coordonnateur général du SAMU social au Gabon. Alors, il y a donc les mesures prises au niveau gouvernemental. Et puis, il y a l'action de ce SAMU social, docteur Yaba. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement la nature de ces activités aujourd'hui dans le contexte d'épidémie du coronavirus à Libreville?
Dans le contexte actuel, l'apport du SAMU social au système de santé global a été décisif puisque nous avions, nous, un lot et un stock de masques important, 108 000 masques, et nous en avions distribué jusqu'à présent 69 000 aux populations vulnérables, aux agents de la force publique qui sont les plus exposés la nuit puisque vous savez qu'on est en confinement partiel, aux personnes vulnérables. Donc depuis 13 jours, depuis 14 jours maintenant, nous allons dans les maisons des personnes âgées, parce que c'est très facile pour nous, nous avons une base de données de 376 800 personnes, dont nous avons réinterrogé la base pour avoir ceux qui ont plus de 60 ans et les femmes enceintes qui sont passées au SAMU social. Et nous avons demandé aux femmes de tout pays, puisque nous sommes quand même déployés dans 6 provinces avec 51 ambulances, d'appeler le numéro vert quand elles sont enceintes, pour que nous allions vers elles, parce qu'elles sont vraiment exposées, et les personnes âgées, et aussi la force publique. Et ce qui fait que finalement, au bout du compte, ce système totalement irradié dans l'ensemble du pays a inexorablement, et ça c'est l'épidémiste qui vous parle, bloqué quelque part les contaminations. Le policier ne peut pas faire un contrôle de police à 1,50 m, qui sont les normes de distanciation sociale. Oui. Le lieu de se courber à 20 cm est vraiment... Imaginez-vous 10 policiers contaminés et 10 taximans contaminés, là on ne serait pas 24.
Dont l'importance de distribuer ces fameux masques. Une dernière question, docteur Yaba. En fait, ce n'est pas la mienne, hein, c'est celle d'un auditeur du Bénin. Il s'appelle Kalilou. Question pratique, mais vraiment utile. En l'absence de gel hydroalcoolique ou de savon, est-ce qu'on peut mettre de l'eau de Javel dans un dispositif de lavage pour les mains? J'imagine que Kalilou voudrait se promener tout simplement avec une bouteille remplie de Javel et se rincer les mains régulièrement. Est-ce que c'est une solution à retenir ou est-ce que ça peut être dangereux, docteur Yaba? Qu'est-ce que vous lui répondez?
Il faut être réaliste parfois et ne pas faire semblant d'ignorer les difficultés en Afrique. Oui, si cette personne, l'eau de Javel, n'a jamais tué personne, si elle est diluée suffisamment dans de l'eau, pour laver les mains. Ça, c'est important à dire. On ne va pas demander à ceux qui n'ont pas les moyens. Entre un peu et rien du tout, il veut avoir un peu et faire avec. Donc, on ne va pas dire que dans le un peu contrôlé. Hein. Attention.
Un peu contrôlé, mais, attention, la bouteille d'eau, pas la laisser traîner s'il y a des enfants, notamment dans les parages.
Ah, bien sûr. Mais on ne va pas dire à ceux qui n'ont rien du tout de ne rien faire. Non, ce n'est pas possible. Par contre, nous allons tout faire, en tout cas dans le contexte gabonais, pour tout donner à tous ceux qui doivent être exposés pour éviter les expositions. Je tenais à dire quelque chose de très important, permettez-moi s'il vous plaît.
En quelques secondes, parce qu'on a encore un interlocuteur très important après vous, allez-y.
Nous avons été très agréablement surpris au Gabon que notre système sanitaire et social soit finalement aguerri à cette situation, puisque en termes de réanimateurs disponibles ou de respirateurs, nous en avons, je peux dire, en termes de santé publique et d'effet de causalité suffisamment avant même que le rajout présidentiel qui est arrivé il y a une semaine n'arrive. Donc c'est vraiment que nous allons être équipés encore davantage pour affronter la question du Covid-19, mais les populations on insiste là-dessus, ne doivent pas circuler, doivent rester chez elles, parce que si elles circulent, malgré ces précautions, ça va être compliqué pour nous de prendre en charge s'il y a des contaminations supplémentaires avec des cas graves nécessitant de la ventilation en réanimation.
On l'a bien compris, restez chez vous au maximum. Merci, docteur Yaba. Je rappelle que vous êtes clinicien, épidémiologiste clinicien, coordinateur général du SAMU social gabonais.
RFI à Libreville, 104 FM.
Et on part à Dakar pour vous donner la parole, docteur Abdoulaye Bousso, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale au Sénégal. On avait échangé beaucoup trop brièvement un jeudi dernier avec vous, il y avait une coupure de ligne, on tenait à vous donner la parole bien sûr. En commençant, un petit peu c'est la coutume désormais, côté chiffres, où en est aujourd'hui le Sénégal par rapport à ce coronavirus ?
Merci beaucoup de nous donner cette opportunité. Côté chiffres, le Sénégal est à 222 cas, donc testé positif. Parmi ces 222 cas, nous avons 82 personnes qui sont guéries. Nous avons eu deux décès et une personne a été rapatriée en France. Donc voilà à peu près ce qu'on a comme chiffres. Et nous avons actuellement dans le pays 11 sites de prise en charge. Et nous avons 8 régions sur 14 régions qui sont touchées par cette épidémie.
Avec comme stratégie l'hospitalisation systématique des personnes testées positives.
Tout à fait. Hospitalisation systématique de toutes les personnes qui sont testées positives, même ceux qui sont peu symptomatiques. Donc c'est notre stratégie aujourd'hui. Et nous travaillons dans ce sens d'avoir le maximum de lits disponibles pour pouvoir prendre en charge ces types de personnes.
Sur les cas testés positifs, est-ce que vous avez des indications sur la proportion de personnes qui développent des formes sévères ?
Depuis le début, déjà les deux décédés ont développé des formes sévères et on a eu, disons, deux autres qui ont développé des formes sévères, mais qui n'ont pas eu besoin, en fait, c'est vraiment une phase de transition, qui n'ont pas eu à être intubés, comme on dit, mais sous assistance respiratoire, et ces personnes ont pu revenir à un état plus stable et transférer dans les sites d'hospitalisation. Donc, les vraiment cas graves que nous avons eus, c'est les, disons, c'est les trois, désolé, c'est parce que la personne aussi qui a été transférée était un cas grave. Donc, nous avons eu trois cas graves qui ont nécessité une assistance respiratoire.
Avec des comorbidités, ça signifie des caractéristiques de santé communes, des problèmes de santé ?
Tout à fait. Toutes ces personnes ont eu des comorbidités. Et ça, c'est vraiment, je pense, retenu aujourd'hui. Ces personnes d'un certain âge, au-delà de 60 ans, avec des comorbidités, ont tous développé, en tout cas.
En particulier, on signale en général des problèmes d'hypertension artérielle ou de fragilité au niveau de la santé cardiaque.
Tout à fait. Hypertension, diabète, cardiopathie et autres.
Docteur Bousso, le Sénégal se démarque avec un choix thérapeutique, en administrant un traitement au cas positif, l'hydroxychloroquine, on en parle beaucoup bien sûr, avec également parfois même un antibiotique en association. Alors il y a un double message, c'est que cette prescription elle est faite en milieu hospitalier et donc surtout pas d'automédication à celles et ceux qui nous écoutent. Mais ce choix aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme retour sur ce choix thérapeutique ?
C'est vrai qu'il est difficile de maintenant de se prononcer, mais quand même, par exemple, si je donne un exemple, sur les 72 dernières heures, on a une moyenne de 10 sorties par jour. Donc, on voit quand même que cette association thérapeutique semble avoir un effet sur la durée de séjour de nos patients sur nos sites de traitement. Donc, c'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier. Donc, aujourd'hui, nous sommes passés pour tous nos patients, l'hydroxychloroquine est introduite dans le protocole thérapeutique. Et bien sûr, ceux qui ont des contre-indications ne sont pas pris en compte. Mais aujourd'hui, en tout cas, de manière, disons, un peu empirique, sans vraiment étudier à fond, on sent qu'il y a quand même une certaine différence avec l'introduction de l'hydroxychloroquine dans le protocole thérapeutique.
J'ai une question assez générale à vous poser, parce qu'on la retrouve dans les messages sur la page Facebook de Priorité Santé. Certains des auditeurs en Afrique ne comprennent pas pourquoi on s'inquiète justement pour ce continent, alors que la plupart des victimes se trouvent, on va dire, au nord, en Europe, maintenant aux États-Unis après le départ en Chine. En fait, les questions sur l'évolution de la maladie, ces auditeurs nous disent « Pourquoi est-ce que vous dites attention les Africains, alors que finalement c'est chez vous, en Europe, qu'il y a le plus de morts ?» Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces personnes qui sont sceptiques?
Ben, je réponds ce que j'ai répondu ici au Sénégal. C'est-à-dire, effectivement, c'est presque une attente que l'Afrique explose avec ce coronavirus. Parce que tout simplement, l'Europe, les États-Unis sont dans des difficultés. Et j'ai dit, moi, personnellement, non. Nous avons les capacités de faire face à cette épidémie. Mm-hmm. Et je pense que l'ensemble des pays africains ont déjà commencé à prendre des mesures. Et ces mesures ont des résultats, ont des actions. Et ils auront des actions dans la prise en charge de cette épidémie. Maintenant, c'est à nous de le démontrer à travers toutes nos actions, toutes les stratégies que nous développons. Et moi, je reste optimiste. En tout cas, pour nous, ici au Sénégal, nous sommes en train de travailler dans ce sens et nous avons la certitude qu'effectivement, nous avons la capacité de pouvoir faire face à cette épidémie. Parce qu'aujourd'hui, les mesures qui sont prises, je pense qu'il y a beaucoup de leçons apprises de la Chine. Et on peut quand même se poser des questions sur les stratégies adoptées par les Européens, les États-Unis, qui ont quand même eu beaucoup de retard
à pouvoir appliquer certaines stratégies. Qui ont eu de retard dans les décisions de confinement et également de tests des cas positifs et d'isolement des patients. Dernière question, bien sûr, sur la sensibilisation. La présidence de la République a prolongé de 30 jours l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens restent chez eux? Est-ce que la distanciation sociale s'installe ou c'est encore compliqué?
Non, ça s'installe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une bonne compréhension de la situation. Et d'une certaine manière, je peux même dire, entre guillemets, les médias internationaux nous aident un peu. Parce que tout ce qu'on voit comme image au niveau international, c'est des personnes intubées, c'est des cas graves, c'est des cercles alignés. C'est-à-dire, même si ici au Sénégal, peut-être dans certains pays, nous ne l'avons pas, ça aide dans la communication. Et donc, les gens se rendent compte que la situation, elle est sérieuse et que si on ne fait pas attention, on peut basculer dans ce mauvais scénario.
Ça donne une réalité au risque. Merci infiniment, hein, Dr Abdoulaye Boussaud. Vous êtes directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale au Sénégal. Grand merci à tous nos invités pour cette émission. Et on retrouve ce rendez-vous bonne santé, anti-sédentarité dans Priorité Santé, puisqu'on s'adapte depuis plusieurs semaines au confinement, à ces sorties limitées, à ces mouvements un petit peu restreints. Alors pour cela, on fait appel au savoir-faire du docteur Jean-Marc Sen. Jean-Marc, bonjour.
Bonjour Caroline. Et oui, en mode confinement aujourd'hui.
Alors j'espère que vous portez toujours bien. Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. C'est donc maintenant notre troisième séance d'activité physique en temps réel. Alors j'imagine, comme d'habitude, une tenue plutôt décontractée. Et du côté de l'équipement, qu'est-ce que vous nous conseillez pour aujourd'hui?
Alors, il suffit d'avoir une marche, voilà, pas trop loin d'un mur ou d'une rampe pour pouvoir se rattraper si jamais. Une chaise bien stable sur un sol qui ne glisse pas. Et aujourd'hui, on va renforcer les muscles du bas du corps.
Alors, les mollets et les cuisses, aujourd'hui, c'est le programme du jour. Premier exercice, qu'est-ce que vous nous proposez?
Alors, pour renforcer les muscles du mollet, je vous propose de vous positionner sur une marche. Alors, il faut être en position verticale, les deux pieds à largeur d'épaule, les mains en appui sur le mur, sur le côté, pour pouvoir se maintenir en équilibre. Et l'idée va être de monter sur la pointe des pieds et ensuite de descendre les talons dans le vide. Donc on a juste l'avant-pied qui est appuyé sur la marche, on va monter sur l'avant-pied, et puis ensuite on va descendre les talons dans le vide.
Donc on est en équilibre, hein ?
On est en équilibre, absolument, et on peut s'aider d'une rampe ou du mur pour pouvoir mieux se tenir si jamais on a des difficultés. Et ce qui est important aussi, c'est de toujours maintenir les jambes tendues, hein, sur l'intégralité du mouvement, et on verra qu'il faudra bien aussi se gainer un peu en contractant les abdos et les fessiers pour éviter de cambrer le dos.
D'accord, alors on va partir, donc on est sur la pointe des pieds au départ ou on est pied à plat au départ?
On est pied à plat au départ.
D'accord, et on part, allez-y, vous nous aidez à compter, on prend le rythme.
C'est parti, et 1, on lève, et 2, on descend, et on lève, on descend, on lève, on descend, on lève, on descend, on lève. Encore une fois pour les débutants, on descend.
Ça tire un petit peu pour certains ?
On lève, ah, sûrement un peu, et on descend. Allez, on continue pour... On lève, on descend. Allez, pour ceux qui sont un peu plus forts, on lève, on descend, on lève, on descend à nouveau. Alors on respire bien, on lève, on respire bien quand on relève les pieds. On descend. Allez, maintenant les plus forts, on lève et on souffle bien. On descend, on lève, très bien, on descend, on souffle en se levant sur les pieds. On lève, on descend à nouveau et on lève, allez, une dernière et on descend.
Voilà. On a fait une série de 20, c'est ça.
Voilà, une série de 20. Donc là, on récupère tranquillement. Et on va refaire ensuite une deuxième série.
Vous conseillez quoi juste pour ce moment de récupération ? On fléchit les genoux, on se
bouge les épaules. Absolument, on fléchit un peu les genoux, on bouge les épaules et on bouge aussi la cheville, les pieds. On fait des ronds avec les pieds pour bien en fait soulager les muscles du mollet.
Allez, on se reprend et on va se retrouver dans quelques secondes pour une deuxième série, j'imagine.
Absolument.
Alors la deuxième série de 20, hein, cette fois-ci on va compter si vous le voulez bien, on renforce les mollets, les cuisses, on est toujours sur la marche, on se maintient au mur si on a besoin d'être équilibré et vous allez une nouvelle fois décompter, docteur Sen, allez-y, vous nous donnez le rythme.
Allez, c'est parti, et on lève, et on descend, on a fait un premier levé, on lève, alors on souffle bien en levant et on descend. Et on lève, 3, on descend, et on lève, 4, on descend, on lève, 5, on descend, on lève, 6, on descend, on lève, on souffle bien, on descend, on lève, 8, et on gaine bien, on descend, c'est important de rester gainé, on lève, 9, on descend, on lève, ça fait 10, et on descend, allez on continue, on lève, on souffle bien, 11, on descend, on lève, 12, on descend,
parce que vous nous dites les mollets, les cuisses, mais il y a les abdos qui travaillent aussi,
on lève, absolument, on descend, on lève.
Moi, je suis l'élève grincheuse, hein, vous avez remarqué.
On descend. On lève, ça fait 15.
Oui, ouais, ça fait 15, oui.
Et on descend. On lève. Voilà, 16, très bien. On descend. Pour ceux qui sont très forts, on lève. 17. Et on descend. On lève. 18. Et on descend. Plus que 2. Et voilà. On lève. On descend, on garde bien gainé. Voilà, allez, un dernier mouvement. On lève, c'est le 20e. Et on descend, voilà.
Merci, docteur. C'est heureusement que vous gardez le sourire parce que comme ça, on y croit. Et on va être prêt pour la prochaine séance. Alors, cette fois-ci, on va muscler quoi précisément ? Déjà qu'on est super tonique, là, on va muscler quoi ?
Eh bien, on va muscler les quadriceps et on va muscler aussi un peu les abdos. On va faire un relevé de chaise. Alors, autrement dit, on va s'asseoir et se relever d'une chaise. On va partir assis. Les pieds vont être également à la largeur de hanche, à 90 degrés, donc c'est-à-dire on est en position assise. On est assis et on va se relever sans décoller les pieds du sol et en gardant les mains croisées sur les épaules. Vous allez voir, c'est pas si simple.
Vous dites les quadriceps, c'est où ? C'est localisé où ça ?
C'est devant les cuisses. devant les cuisines.
Oh là, ça va tirer, ça va tirer, voilà. Ça va tirer.
Et si jamais, bien sûr, se relever sans se tenir avec les bras est difficile, eh bien, on peut s'aider, évidemment, des bras si véritablement c'est important. Ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment regarder le regard à l'horizontale pour éviter de cramper le dos. Hein, ça, c'est vraiment, vraiment important. Bien regarder droit et se lever tout en gardant les muscles abdominaux bien contractés.
D'accord, on va partir pour le décompte. C'est deux séries de 20 à nouveau ?
Alors, oh non, on va en faire moins, on va en faire que 10 maximum.
D'accord, on vous suit, allez-y, donnez-nous le rythme s'il vous plaît, docteur Sen.
Allez, on est assis et on se relève, c'est parti. 1, et on reste debout, et on s'assoit. 2, et on se relève. 1, et on s'assoit, ça fait 2. Et on se relève. Allez, ça fait 3. Et on s'assoit. On se relève. Ça fait 4. Et on s'assoit. Et on se relève. Ça fait 6. Ça fait 5.
Oui, ça fait 5. Je suis même plus. Je suis là. Je continue. Et on s'assoit.
Et on se relève. Là, ça fait 6. Pour ceux qui sont, voilà, ceux qui peuvent tenir encore. Et on s'assoit. Voilà. Et on se relève. Voilà, ça fait 7. Allez, ça, c'est pour les plus forts, ça. Et on s'assoit. On souffle bien. On souffle bien en se relevant. Ça fait 8. Et on s'assoit. On garde bien gainé, hein. Le dos, les abdominaux, c'est vraiment important. Et on se relève. Voilà, ça fait 9. On s'assoit. Voilà, on relâche. On garde bien gainé les abdominaux. Et on se relève, ça fait 10. Super. Et on s'assoit.
En fait, voilà. C'est quand on sera assis, hein, que c'est superbe. Et on comprend bien pourquoi il n'y en avait que 10 et pas 20, docteur Sen. Parce voilà, que là, 20, ce n'était pas possible. Là, on avait les jambes qui se mettaient à trembler carrément.
Absolument. Bon, voilà. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire absolument tous les matins. C'est vraiment très simple et ça permet de renforcer tous ces muscles des mollets, des cuisses et des abdominaux.
Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, hein, c'est que même quand le confinement sera terminé, on pourra refaire ces exercices, même y compris au bureau, quand on n'a pas forcément le temps de sortir, prendre une pause. On peut faire une petite séance avec sa chaise et se gainer de cette manière tout en travaillant.
Absolument. C'est vraiment un exercice pour tous les jours qui vraiment permet d'entretenir le corps. Absolument.
Ben merci beaucoup. Hein. Merci infiniment, docteur Sen. Le rendez-vous est donné. On continue lundi prochain. Vous ne nous épargnez pas, mais ça nous fait plaisir en même temps. D'ici là, on va continuer de bouger. On garde le rythme. Et surtout, on garde le moral. On est avec vous. Merci, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. À bientôt. Et bien sûr, un grand merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout, Samake, Ophélie Lassen, Tania Tsikounas, chez elle, dans les studios de RFI. Steven Hesley était bien là avec Didier Chérouse, merci à eux. Demain, on va parler des complications pulmonaires et respiratoires du coronavirus. Prise en charge aussi, comment ça se passe dans les services de réanimation? Vos questions, vos messages sur la page Facebook de l'émission. À demain, d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Autour de la...